Midi 30, 14h.
La France bouge avec Raphaël Duchemin sur Europe 1.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1. Ma mission, vous la connaissez chaque jour, vous faire découvrir des idées, des projets, des entreprises, des initiatives qui font bouger la France. Aujourd'hui, gros plan sur le monde de l'aéronautique. Le salon du Bourget a ouvert ses portes hier et vous allez voir que même au-dessus des nuages, les innovations françaises ont leur place. Elle existe depuis 1888. Elle est la toute dernière en Europe à fabriquer des clous en fer forgé. La clouterie Rivière est l'entreprise qui va bien, merci. Et puis vous avez peut-être un problème à résoudre, mais vous ne voulez pas passer par la case tribunal. Une solution, litige.fr, c'est ça la France qui bouge et c'est sur Europe 1.
Europe 1.
39-21, comme chaque jour, vous pouvez décrocher votre téléphone pour être en direct avec nous. Venez nous dire par exemple ce qui vous impressionne le plus quand vous prenez l'avion, parce que c'est d'aéronautique que nous allons parler aujourd'hui, Anissa.
Et toutes les questions que vous avez qui se passent au-dessus des nuages, c'est maintenant qu'il faut les poser sur Europe 1. 39-21, c'est le standard, 50 centimes la minute. Les invités de Raphaël Duchemin vous répondent évidemment et puis on lit vos messages, vos réactions, vos témoignages sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Ah oui, car le salon du Bourget a ouvert ses portes hier, mais il ouvrira ses portes au public ce samedi et vous allez voir que pour les professionnels, il a d'ores et déjà déployé ses ailes. Embarquement immédiat donc, mais seulement si vous avez votre passeport innovation. À mes côtés pour accueillir nos invités, comme chaque jour, Elisabeth Assayagela, bonjour.
Bonjour Raphaël, bonjour à tous.
Et notre coach, c'est Mercedes Serra, aujourd'hui cofondatrice de l'agence BETC, présidente exécutive d'Avas Worldwide. Bonjour Mercedes.
Bonjour.
Le premier mot qui nous vient en tête quand on parle du Bourget, c'est évidemment avion. Charles-Élie Couture avait chanté « L'avion sans aile ». Nous, c'est un avion à une seule aile qu'on vous propose de découvrir aujourd'hui. Bonjour Arthur Léopold de Léger.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le président d'Elixir Aircraft. Vous êtes basé du côté de La Rochelle. Et je crois que c'est là-bas justement que vous avez imaginé cet avion un peu particulier que vous allez nous décrire. La Rochelle, bord de mer, c'est le nautisme qui vous a inspiré, je crois.
Tout à fait. Alors, une partie de l'équipe d'Elixir a grandi à cheval entre le nautisme et l'aéronautique. Ça nous a permis de faire plusieurs constats. D'une part, il y a un énorme besoin de renouveler la flotte des avions de formation dans le monde. Boeing et Airbus ont des cadences de folie, produisent à plein. Mais par contre, les pilotes ne sont pas produits, formés aussi rapidement. Donc, il y a un très fort besoin. Et pourquoi on n'arrive pas à former tous ces pilotes? En partie parce qu'il n'y a pas assez d'avions ou pas assez d'avions modernes pour les former. Donc, le premier constat, c'est de se dire, il faut renouveler ce marché. Et ensuite, comment on peut arriver à avoir un produit qui est optimum pour ce marché? Il faut innover. Et une des problématiques auxquelles font face les formateurs aujourd'hui, c'est la maintenance des avions, la simplicité et leur coût. Et pour tout ça, il faut alléger les avions, à la fois leur masse propre, mais aussi leur maintenance et leur process de fabrication.
Donc vous avez réfléchi à des avions qui auraient moins de pièces, hein, si j'ose dire.
Alors,
600 pièces contre 15 000, on va dire, en moyenne pour des petits avions, et qui permettraient donc de s'user moins rapidement parce qu'il y a moins de vis, tout simplement.
Exactement. Alors souvent, la maintenance, elle est liée à des problèmes d'attache mécanique, des vis dérivées, de la colle. Nous, le principe, c'est de supprimer tous ces assemblages mécaniques. Effectivement, on arrive à une innovation qui est une première mondiale, c'est de faire une aile en une seule pièce et en une seule opération. Donc elle est plus légère, plus facile à produire, moins chère, et donc beaucoup plus solide, etc. etc.
Et ça, donc c'est cette aile, elle est sous le ventre de l'avion?
C'est ça. Et alors, on parle
elle passe
évidemment
d'un côté et de l'autre. Hein,
tout
c'est
à
ça
fait. On parle évidemment de l'aile, qui est une pièce qui fait 8 mètres de long. Il faut savoir que chaque gros élément de notre avion est fait de la même manière. Le fuselage, c'est aussi une seule pièce. Et c'est une techno qu'on a effectivement été chercher dans le nautisme. C'est une techno qui est utilisée sur les bateaux du Vendée Globe, de l'America's Cup, depuis une quinzaine d'années.
C'est quelque chose que vous connaissez bien. Je crois que vous avez fait la transatlantique en solitaire, c'est ça?
Tout
et vous
fait.
Aviez fait votre propre bateau.
Tout à fait. Effectivement, j'ai construit un bateau, alors pas tout seul, avec beaucoup d'amis, mais c'est un bateau qui se voulait lui aussi très innovant en fibre de carbone. L'année dernière, j'ai pu faire une course transatlantique au départ de La Rochelle. Sur la première étape, j'ai réussi à finir deuxième. Sur la deuxième étape, j'ai eu malheureusement quelques péripéties puisque j'ai malheureusement heurté un mammifère marin. Mais on a quand même réussi à finir. Et tout ça, c'est vrai que c'est une synergie chez nous entre le nautisme et l'aéronautique qui est particulièrement importante.
On a parlé du nombre de pièces. Les matériaux sont importants aussi. C'est de l'alu, c'est de la fibre de carbone, c'est ça?
Alors, c'est majoritairement de la fibre de carbone qui nous permet de faire un avion très léger. Et qui dit avion très léger dit tout petit moteur pour des bonnes performances. Donc on a un impact sur la planète qui est ridiculement petit.
Parce qu'on a une consommation qui est moindre?
Exactement. Pour vous donner un ordre d'idée, en volant à 200-250 km/h, on va consommer à peu près 5 litres au 100. ce qui est phénoménal, aucune voiture n'est capable de faire ça aujourd'hui. Donc en termes d'impact sur la planète, on est deux fois moins important que n'importe quel autre avion de formation dans le monde.
Dites-moi, que disent les gros constructeurs? Ils vous regardent de manière très intéressée, je suppose. Est-ce que c'est duplicable en l'état sur des gros porteurs? Pas pour l'instant?
Alors, c'est duplicable sur certaines pièces dès maintenant. Évidemment, on n'est pas encore prêt aujourd'hui à faire une aile d'Airbus A380 en une seule pièce. Il y a encore des gros... il va encore se passer quelques années, voire décennies, mais on serait capable de faire un aileron, ce genre de pièce. Alors évidemment, les industriels sont intéressés par notre avion, mais aussi le marché, hein, puisque la bonne nouvelle, c'est qu'on a déjà 83 précommandes. Donc, ce qui représente pas loin de 3 ans de production et production qui devrait démarrer avant la fin de l'année.
Oui, parce que l'idée, c'est de produire dans les 4 ans 120 avions avec ce modèle-là, c'est
tout ça? Tout à fait. Alors aujourd'hui, c'est un modèle biplace vraiment dédié à la formation. On a deux marchés cibles que sont l'Europe et les États-Unis, auxquels on va commencer à s'attaquer à partir de l'année prochaine. Et l'objectif, c'est d'arriver à faire même jusqu'à une centaine d'avions par an d'ici 4 ans.
Que dit notre coach Mercedes?
Elle est emballée, c'est ça le problème. Parce que c'est quand même formidable dans ces univers-là de réussir. Et il semblerait que la France soit très bien placée, hein, puisqu'on a beaucoup d'abord de goût pour l'aviation civile donc en France, et deuxièmement parce qu'il y a un intérêt des start-up innovantes, parce qu'il faut quand même une sacrée dose d'innovation pour inventer ça. Comment vous est venue l'idée? Moi, j'aime bien savoir comment ça naît, parce que je cherche l'idée et je ne la trouve pas.
Moi, j'ai eu la chance de me retrouver à la croisée des chemins et de ne pas avoir peur de saisir l'opportunité au vol. D'un côté, on a des avions qui ont besoin d'être renouvelés. De l'autre côté, on a des bateaux qui sont faits avec des méthodes ultra innovantes et intéressantes pour l'aéronautique. Il n'y avait plus qu'à se lancer.
Mais pourquoi les bateaux,
2014,
c'est plus innovant?
Ça vous a pris peu de temps quand même.
Oui, absolument. Alors, pourquoi les bateaux sont plus innovants? Qu'est-ce qui bloque ou bloque pas?
Quand on fait du bateau, on parle de course au large ou de régate, on a un objectif, c'est de gagner une course. Des courses, il y en a tous les ans, et tous les ans, il faut innover pour gagner la course de l'année prochaine, soit pour la regagner, soit pour la gagner parce qu'on ne l'a pas gagnée. Donc ça veut dire des pièces plus légères, des pièces plus performantes, etc. Et quand on parle de compétition, il n'y a aucune restriction réglementaire. C'est l'imagination et on prend nos risques. Ça casse, on a raté, on recommence. Ça casse pas, tant mieux. Dans l'aéronautique, c'est complètement différent, on n'a pas le droit de casser. Donc on va nous imposer, et c'est normal, des certifications qui sont ultra rigoureuses pour atteindre un niveau de sécurité qui est phénoménal.
C'est à peu près le même, il est équivalent à un avion classique?
Alors c'est exactement les mêmes certifications, c'est les mêmes agents de certification, c'est la même agence européenne qui nous certifie qu'un Airbus, un Boeing ou un Elixir. On a très clairement des experts qui nous certifient, qui travaillent en même temps sur des programmes d'Airbus.
Donc c'est la liberté des marins qui vous a autorisé les performances dans l'aviation.
Exactement.
On peut trouver des sources d'inspiration un petit peu partout et notamment dans le nautisme. Elisabeth, je voudrais qu'on regarde, il y a pas mal de start-up, je crois, françaises qui sont dans l'aviation et qui sont incubées en ce moment.
Mais oui, parce qu'on a un incubateur français qui est Starbust Accelerator, premier incubateur mondial dédié aux start-up de l'aéronautique et du spatial. Il existe depuis 6 ans. Starbust s'est développé dans les principaux centres aéronautiques mondiaux. Ils ont des bureaux un peu partout, à Los Angeles, à Singapour, à Montréal, à Munich, à San Francisco, et une sélection de plus de 30 start-up elles vont intégrer Starbust pour développer des innovations technologiques de pointe. Alors parmi ces start-up, on a le spécialiste des autopilotes pour drones Yonos, ou alors encore un Internest qui développe un système de capteurs et de logiciels pour des atterrissages de haute précision, notamment pour les hélicoptères.
On reste ensemble et on parle aéronautique aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h09.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Et si la route du futur se trouvait là, juste au-dessus de nos têtes, pour se déplacer demain, on prendra des taxis volants, embarquement dans quelques secondes.
Du grand salon du Bourget dont vous entendez parler dans l'actualité aujourd'hui, Raphaël Duchemin, vous nous proposez de découvrir toutes les innovations françaises pour nos avions de demain. À quoi vont-ils ressembler? C'est la question que vous posez à vos invités jusqu'à 14h, et vous aussi vous pouvez leur poser des questions au standard 3921 et sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Et c'est vrai qu'on vous a déjà parlé ici à Europe 1 dans la France Bouge de nos modes de déplacement, ceux qui sont actuellement en plein développement. Il y en a un qui est peut-être un peu plus avancé que les autres, c'est le fameux taxi volant. Bonjour Thibaut Baldivia.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes l'un des fondateurs d'Ascendance Flight. Et alors vous proposez un aéronef, on va dire aéronef hybride, qui va, lui, pouvoir transporter 4 personnes. Racontez-moi d'abord comment vous est venu à tous les 4, hein, parce que je crois que vous êtes 4 cofondateurs, l'idée de développer ce concept. Pourquoi cet aéronef hybride ?
Alors, effectivement, on est 4 cofondateurs de la société, où on travaillait déjà ensemble dans l'industrie aéronautique électrique, chez Airbus, tout à fait. Et quand on a vu cette émergence un petit peu des technologies électriques, on a vu que ça débloquait cette possibilité du coup de travailler sur un taxi volant. Donc, retour vers le futur, il y avait déjà les taxis volants en 2015. On a vu qu'on avait un petit peu de retard, donc on s'est dit qu'il fallait qu'on comble justement.
Il fallait rattraper Marty McFly.
Exactement, qu'on rattrape Marty McFly.
La particularité de cette aéronef, c'est d'avoir un atterrissage et un décollage vertical, c'est ça, entre autres, hein, comme un ascenseur.
Tout à
comme
fait.
Un hélico.
Alors, comme un hélicoptère, l'avion qu'on développe, il est vraiment à mi-chemin entre l'hélicoptère et l'avion. Donc avec un décollage vertical comme un hélicoptère, qu'on va faire en tout électrique pour limiter le bruit, limiter les émissions de polluants. Puis après, on va transitionner vers une phase de croisière, où là, on va voler comme un avion sur une distance à peu près de 250 km.
Vous avez, je crois, déjà mis en service un prototype qui a volé l'année dernière. Vous êtes en train d'en développer un nouveau pour une commercialisation rapide. Je crois que vous avez prévu une mise en service pour 2024, hein, pour les Jeux Olympiques.
Exactement.
Qu'est-ce qui va se passer entre-temps ? Vous allez affiner le prototype, essayer de corriger ce qu'il y a encore à corriger ?
C'est exactement ça. Donc, on a commencé par mettre en vol un prototype échelle réduite de l'avion. Donc, un aéronef qui fait 2 mètres à peu près d'envergure, qui nous a permis en fait de bien voir comment se comportait l'avion, quelles étaient les phases de vol auxquelles on allait être confronté, voir aussi certaines problématiques qu'on n'avait pas forcément anticipées et qu'on a pu depuis corriger.
Comme par exemple
Comme par exemple des effets aérodynamiques qu'on retrouvait lors du décollage vertical qu'on n'avait pas forcément anticipé. Donc ça, aujourd'hui, c'est des choses qui ont été corrigées. Et donc sur aujourd'hui l'avion échelle 1, donc le prototype qu'on développe, c'est pour justement en fait venir travailler tout ce système de propulsion hybride qu'on ne peut pas vraiment en fait appréhender sur un prototype échelle réduite.
Alors moi j'ai plein de questions évidemment, parce qu'en 2024, si je veux aller de l'aéroport au cœur de Paris par exemple, est-ce que je pourrais prendre ce taxi volant ? Il va voler à quelle altitude ? Où est-ce que je vais me poser ? Est-ce que vous avez d'ores et déjà résolu toutes ces questions ?
Alors on y travaille, c'est vraiment toutes ces problématiques d'opérationnel, d'acceptance sociétale aussi qui sont pour nous très importantes. Si vous voulez, par exemple, partir de l'aéroport pour aller dans Paris, on va s'intégrer en fait dans une chaîne multimodale, puisqu'aujourd'hui, notamment à Paris, il est difficile de survoler la ville. Donc on va pouvoir vous amener de l'aéroport à, une porte de Paris, où on va atterrir sur ce qu'on appelle un vertiport, un skyport, donc une infrastructure dédiée. Et après, à partir d'ici, on va vous proposer dans le service, donc sur l'application par exemple, quelque chose de complètement packagé, où après vous pouvez prendre un taxi, un véhicule électrique ou une trottinette.
De prendre ce genre de taxi, ça va coûter cher ?
Alors, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir descendre ce prix-là, d'avoir la rapidité de l'aérien au prix aujourd'hui de ce que vous pourriez payer, par exemple, pour un taxi moto.
Ah ouais ? Mercedes ?
Alors là, je prends tout de suite de taxi, ça me paraît.
Alors, vous accueille avec grand plaisir.
Elle a déjà embarqué.
Oui, c'est pour quand ? C'est pour quand ?
Alors, 2024. Pour 2024, 2025.
Ça veut dire qu'on en est au combienième de prototype ?
Alors là, aujourd'hui, on travaille sur le deuxième prototype. On en a déjà fait voler un à échelle réduite. Et là, aujourd'hui, c'est le premier prototype taille réelle. Donc vraiment un avion dans lequel on pourra embarquer
quatre personnes, dont le pilote, évidemment.
Et là, j'imagine aussi qu'il faut que vous soyez homologué, que ce soit autorisé.
Vous
et là, c'est compliqué.
Exactement. Alors aujourd'hui, le cadre réglementaire, on le travaille avec les autorités de certification, donc notamment l'agence européenne qui s'appelle l'EASA. On fait partie des groupes de travail pour la rédaction de ces nouvelles réglementations pour pouvoir travailler ça pour 2024.
Je crois que vous êtes aussi en partenariat avec l'ONERA pour le partage de données. Ça, c'est important parce que l'ONERA, tout le monde ne connaît pas. On va essayer de simplifier. C'est quoi ? C'est la NASA, l'équivalent de la NASA française ?
Exactement. Hein ? C'est l'équivalent du volet aéronautique de la NASA en France. Donc, il y a un laboratoire spécialisé dans tout ce qui est aéronef innovant, technologie aéronautique. Et donc, avec qui on travaille sur les rotors pour justement avoir des rotors performants, mais silencieux.
Et je disais que c'est un des modes de déplacement du futur qui est très avancé. La preuve, Elisabeth, il y a de plus en plus de projets du même type hein, qui sont en train de s'annoncer ou en tout cas de s'amorcer.
Des projets un peu partout dans le monde. Hein. Oui. Alors, en France, vous êtes un des seuls hein, quand même dont le projet est quasiment abouti, hein, on peut le dire. Alors par exemple, vous avez les Allemands, Volocopter, hein, qui est aussi là-dessus. Encore un Allemand, Lilium Jet. Vous avez Aurora Flight Science qui fait partie de Boeing. Il y a eu un premier vol il y a quelques mois, ou encore Over Taxi, hein, dont on a parlé, hein, proche de Volocopter. Voilà, tout le monde est en train d'un petit peu de se positionner sur ce mode de déplacement qui va nous faciliter grandement la vie.
Et en termes de développement durable, où on en est là-dessus ? Est-ce que prendre un taxi dans le ciel, c'est très cher pour la planète ?
Alors c'est vraiment tout ce qui est développement durable, c'est au cœur de nos enjeux. C'est pour ça qu'on part d'ailleurs sur une propulsion qui est hybride dans un premier temps, donc hybride thermique électrique, pour pouvoir réduire justement cet impact. Et puis après, notre vision, c'est vraiment de pouvoir passer à une version 100% électrique pour là encore vraiment réduire l'empreinte carbone dès que la technologie en fait sera suffisamment performante et au niveau nécessaire.
On reste ensemble et on continue à prendre de la hauteur aujourd'hui sur Europe 1. Il est 13h18.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Comment venir en aide aux pilotes quand ils sont en situation d'urgence ? Une start-up y a pensé, elle a créé une box pour les aider. A tout de suite. On prend l'air aujourd'hui sur Europe 1. La France bouge et il existe de nombreuses innovations pour nos avions. À quoi vont ressembler nos avions de demain ? C'est la question que vous posez à vos invités, Raphaël Duchemin. Et il y a déjà pas mal de questions sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Continuez, on va les poser dans un instant aux invités et au 39-21 également.
Quand on est au-dessus des nuages et qu'un problème survient à bord de l'appareil, les pilotes ne peuvent compter que sur eux-mêmes et leurs connaissances pour s'en sortir. Alors, pour venir en aide à tous ceux qui pratiquent, eh bien une start-up toulousaine a eu l'idée de créer une box. Bonjour Arnaud Violant.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le cofondateur de Safetyn et vous avez mis au point une innovation. Elle est là avec nous sur europe1.fr. C'est la Safetyn Box. L'idée, je vais essayer de résumer, c'est de faire en sorte que les taux de mortalité des pilotes, qu'ils soient pilotes d'ULM, pilotes d'hélico ou de petits avions de tourisme notamment, chutent. Comment est-ce que vous avez fait pour concevoir cette innovation ? Qu'est-ce qu'il y a en gros dans cette boîte qui va les aider ?
Alors, on est parti d'un constat au départ de l'évolution des technologies dans l'automobile. Ça fait 30 ans que l'on voit des ABS, des airbags qui rentrent dans la voiture et qui réduisent de façon drastique les mortalités, les taux de mortalité. Donc, en 30 ans, il y a à peu près ces taux qui ont été divisés par 2, alors qu'on a multiplié le nombre de kilomètres par 3. L'aviation générale ne bénéficiait pas de ces taux-là. Et le vrai sujet, c'est le facteur humain, c'est-à-dire les limites, mais aussi les opportunités qu'ont les pilotes de bien piloter. Quand on parle facteur humain, on peut parler de la surdité inattentionnelle. On peut ne pas entendre des alertes qui peuvent être critiques, comme par exemple il manque de l'essence dans l'avion.
C'est-à-dire qu'il peut se passer quelque chose dans le cockpit que le pilote ne va pas entendre ou ne va pas voir.
Tout à fait. Il faut savoir que ces avions ont été conçus il y a parfois 50 ans et ça n'est pas du tout le même rythme que l'automobile en termes d'adoption technologique. Et donc, on a changé complètement le paradigme par rapport aux constructeurs tels qu'on les connaît. On s'est intéressé au pilote, on est parti de lui et on l'a mis dans son environnement de cockpit et on a vu tout ce qui ne fonctionnait pas, notamment lorsqu'on arrive en situation critique d'atterrissage avec des conditions météo qui se dégradent et où on a ce qu'on appelle la charge cognitive du pilote qui est saturée. Et donc, la box intègre une technologie qui vient de l'automobile, qui s'appelle l'Emergency Call. Dans votre voiture depuis le 1er avril, vous avez la possibilité... Un bouton d'appel qui peut être soit activé manuellement, soit qui est activé automatiquement dans le cas, par exemple, du déclenchement d'un airbag. Et bien nous, ce qu'on se dit, ce n'est pas tant le crash qui nous intéresse que la séquence d'avant. Quand le pilote commence à avoir un coup de stress, eh bien, il y a un appel automatique avec un téléassistant qui va d'abord le faire déstresser et ensuite comprendre la problématique qui se pose pour résoudre son problème, l'aider à résoudre son problème.
Ça signifie qu'au moment où le pilote peut perdre ses moyens, il a la possibilité d'être appelé de l'extérieur et donc de ne plus être seul, en quelque sorte, à l'intérieur de l'appareil.
C'est tout l'enjeu. Et on est au Salon du Bourget, il y a beaucoup de discussions autour du SPO, le Single Pilot Operation, qui va indiquer que le copilote va sortir de l'avion progressivement. Des projets très, très ambitieux chez Airbus et Boeing vont dans ce sens-là, aussi pour pallier au faible nombre de pilotes par rapport aux besoins. Et donc, les enjeux de vraiment comprendre le facteur humain aussi pour ces pilotes d'avions de ligne, qui sont d'abord en aéroclub, dans les petits avions, est fondamental.
Donc, ça va s'adresser justement aux instructeurs, aux pilotes en formation d'abord, et puis ensuite, tout simplement, venir équiper directement les appareils.
Exactement. Selon deux axes, il y a la préservation de vie pendant le vol, mais aussi, il y a un volet débrief. C'est-à-dire que toutes ces données qui sont captées pendant le vol, à la fois dans l'avion, dans le cockpit, mais aussi sur le pilote avec des capteurs physiologiques, eh bien, sont digérées par cette box et sont ensuite retranscrites dans une interface, comme vous avez quand vous faites un jogging, après un jogging avec des montres connectées. Eh bien, il y aura une capacité de rejouer.
Vous parlez de la montre connectée, ça n'est pas un hasard. Hein. Vous travaillez avec, avec Garmin, je crois, sur des
produits. Alors, nous inspirons de différents types de montres connectées, de capteurs physiologiques. On va même aller chercher des partenariats avec des centres de recherche qui travaillent sur l'électroencéphalogramme, hein, sur la tête. Mais il va falloir prendre son temps, y aller étape par étape et travailler progressivement avec les pilotes.
Mercedes ?
Non, ce qui est joli aussi, c'est qu'en fait, on s'aperçoit qu'il y a des gens qui volent. Et les gens qui volent, volent peu finalement par rapport à des gens qui roulent, etc. Donc, c'est assez dangereux finalement de prendre quand vous n'êtes pas sans arrêt dans un avion. Et ça est un élément d'aide fortement. Combien il y a de gens qui volent? Et ils volent souvent? Ils ne volent pas souvent?
Oui, alors ce qui est intéressant, c'est que la France, déjà, est le deuxième pays dans le monde après les États-Unis en termes de nombre de pilotes. Et c'est une tradition française, une excellence française. Et en termes de durée de vol, c'est entre 15 et 20 heures par an. Donc effectivement, c'est très peu. Mais la box permet aussi de faire le pont avec des scénarios qu'on peut jouer en réalité virtuelle lorsqu'il est indiqué qu'un pilote n'a pas su gérer en vol réel une situation. Son instructeur va lui proposer de vivre des scénarios pour qu'il se muscle cognitivement. Ça, c'est vraiment le terme qui est important pour nous et qu'il soit plus rompu la prochaine fois qu'une telle situation se déroule.
C'est le cinquième prototype qui est présenté en ce moment au Bourget. Et vous allez, fin 2019, faire un test grandeur nature en partant de Toulouse, c'est ça ?
Alors, fin 2019, c'est la commercialisation. Vous l'avez dit tout à l'heure dans un lien entre élèves, pilotes et instructeurs. Et on va surtout, en septembre, équiper une dizaine de pilotes sur le Rallye Toulouse-Saint-Louis du Sénégal, donc 15 jours de vol et le Raid Latéco Air. Voilà, des allers-retours. Et donc, ce sont des environnements très intéressants pour des pilotes qui sortent de leur zone de confort pendant 15 jours pour aller se confronter à de nouveaux terrains, à de nouveaux circuits.
Elisabeth,
vous dites que dans un premier temps, vous leur apprenez à. Vous allez les aider à se déstresser quand ils sont dans une situation d'urgence. Ça signifie que le petit boîtier mesure en temps réel les données physiologiques, l'état de stress. C'est en temps réel ? C'est ça qui va lui permettre de se déstresser ?
Oui, alors ce sont des sujets compliqués. Donc, ils sont traités par des centres de recherche. Nous, on récupère les capteurs et l'intelligence avec des partenariats avec eux pour constituer des ensembles physiologiques sur la tête, sur les mains. On va récupérer ces informations.
Pendant
le vol, effectivement, et c'est là qu'on va les mettre en œuvre pour la première fois lors du rallye de Saint-Louis et le Raid. Voilà, en temps réel. Mais de toute façon, allons-y étape par étape. Ce qui nous intéresse en premier lieu, c'est le coût de stress. Et là, déjà, avec des variations du rythme cardiaque, on peut déjà savoir pas mal de choses. Ouais, tout à fait.
On reste ensemble et on attend vos questions, bien sûr.
Il est 13h28.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
39-21, c'est le standard d'Europe 1 et Twitter, hashtag Europe 1. Venez, c'est la France qui bouge. À tout de suite.
La France bouge sur Europe 1, l'actualité. Au Bourget, c'est le salon qui va vous ouvrir ses portes à partir du 17 juin, le salon du Bourget, avec toutes les innovations aéronautiques. Et certains sont à vos côtés, Raphaël Duchemin. Aujourd'hui, nous découvrons les avions de demain. Vous pouvez leur poser toutes vos questions. C'est maintenant que ça se passe au 39-21, le standard d'Europe 1, 50 centimes la minute, et sur Twitter.
Elisabeth Assayag est à mes côtés comme chaque jour dans cette émission. Notre coach aujourd'hui, c'est Mercedes Serra. Et nos invités, Arthur Léopold Léger pour Elixir Aircraft, Thibaut Baldivia, Ascendance Flight Technology, et Arnaud Violant, cofondateur de Safetyne. On a déjà, je crois, quelques questions sur Twitter, Anissa.
Oui, Raphaël, alors il y a une question de Rodrigue qui nous dit « C'est peut-être une question bête, mais qu'est-ce que l'innovation fait pour rassurer les personnes qui ont la phobie de l'avion ?»
Ça, pour l'instant, on n'a pas encore trouvé. Encore que peut-être que chez
Safetyne,
vous avez un début de réponse.
Il y a quand même des formations qui existent.
Oui, il y a le fameux stage anti-stress
France. Et ça marche
depuis
pas
des années.
Mal. Hein,
ce qui paraît, c'est efficace. Ouais.
Oui, c'est assez efficace.
Très grosse innovation. Hein. On a une grosse poignée rouge au milieu du tableau de bord. Si on la tire, il y a un gros parachute qui se gonfle au-dessus de l'avion. Et l'avion redescend tout seul au sol sous le parachute.
Génial, c'est génial, ça.
Donc, si jamais vous faites un vol de loisir avec un ami qui peut avoir un problème de santé qui ne sera pas en mesure de poser l'avion, le passager n'a qu'à tirer sur la poignée rouge et l'avion revient au sol.
Mais ça, on ne peut pas le faire sur les avions de ligne. Un parachute géant sur les avions de ligne.
Techniquement, c'est difficile. Je ne vais pas dire que c'est impossible.
Ouais, mais ce serait rassurant.
Il y a une question d'altitude aussi, je suppose.
Oui, c'est assez compliqué.
La peur, c'est.
Mais on offre une issue de secours à n'importe qui.
Chez Safetyne, vous travaillez avec le pilote. Est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez imaginer pour faire redescendre le stress, puisque vous analysez tout, vous nous mettez plein de capteurs partout?
Plus qu'imaginer, on a parlé beaucoup d'aviation générale, mais on s'intéresse évidemment aussi à ce que s'appelle la mobilité interurbaine aérienne. Et le vrai enjeu de toutes ces plateformes qui sont en train de venir, les City Airbus, les Aurora Flight Sciences que vous avez évoquées, c'est le confort du passager. À partir du moment où il sera possible d'aller d'un point A à un point B, il faut que ces passagers soient rassurés et comprendre physiologiquement ce qui se joue les concernant. J'ai parlé tout à l'heure de la boxe dans le rallye Toulouse-Saint-Louis du Sénégal. Mm-hmm. Eh bien, nous aurons aussi les pilotes et les passagers qui vont avoir leur physiologie captée et on pourra calibrer, comprendre ce qui s'est joué dans le même vol en fonction des personnes. C'est quelque chose de très personnel.
Et puis, ce qu'on n'a pas dit, c'est que vous allez aussi mettre en place une académie pour former les gens qui seront de l'autre côté, hein, qui vont recevoir l'appel des pilotes. Ça, c'est important. Il y aura vraiment un lien entre eux.
Exactement. Et pour revenir sur l'aspect débrief, le passager, de la même façon qu'aujourd'hui, lorsqu'il a cette montre connectée et qu'il voit comment sa cardio évolue, eh bien, va pouvoir aussi voir dans quelle mesure sa cardio bouge ou ses paramètres physiologiques bougent et comment on peut trouver des solutions. On peut par exemple utiliser de la réalité virtuelle pour changer le schéma mental et les plonger dans d'autres situations, comme par exemple en cas de forte turbulence.
C'est de la formation, c'est important. Mmh.
Tout à fait.
Anissa, d'autres messages ?
Oui, il y a un message d'Élodie qui nous dit « Je trouve passionnant les taxis volants, mais qui seront les pilotes de ces taxis volants en 2024 à Paris ?»
Thibaut Baldivia.
Alors, pour faire le lien avec la question précédente, pour nous, justement, en fait, le fait d'avoir un pilote, c'est aussi pour pouvoir rassurer les passagers, pour pouvoir les accompagner dans cette nouvelle forme de mobilité. Puis après, pour la formation des pilotes, là, je me retourne aussi vers Elixir Aircraft, puisqu'on aura besoin d'avoir un pool de pilotes, soit d'avions, soit d'hélicoptères, qui auront été formés, et auquel, en fait, on pourra donner une formation complémentaire, une qualification supplémentaire pour pouvoir piloter ces taxis volants.
Il y a des passerelles possibles entre vos solutions aux uns et aux autres, je suppose, aujourd'hui.
Exactement, hein. Oui.
L'aéronautique, c'est de toute manière, d'une manière générale, que ce soit Airbus, Boeing ou nous, les plus petits, un milieu qui est un gros réseau et tout le monde travaille ensemble. Et c'est pour ça que le Bourget, c'est le plus gros salon aéronautique dans le monde. Hein. C'est parce qu'on a un énorme réseau.
Est-ce que ça veut dire que la formation des pilotes sera différente ou accélérée ? Est-ce que... Il y aura des exigences différentes.
En fait, ce sera des exigences qui seront complémentaires en plus de la formation de base. En fait, il faudra que les pilotes, que ce soit d'avion ou d'hélicoptère, ils acquièrent un petit peu ce qu'on appelle le sens de l'air, quoi. Donc, savoir comment utiliser un avion ou un hélicoptère. Et après, dans un second temps, on va pouvoir aller les former aux spécificités de notre machine, donc notamment cette phase de décollage et d'atterrissage vertical, qui est un petit peu nouvelle, c'est en fait, pour eux.
Arnaud Violent.
Il faut savoir qu'effectivement, le fait qu'il y ait le single pilot operation qui arrive en opération, encore une fois, avec un seul pilote dans l'avion, même dans l'aviation commerciale, va complètement changer le paradigme dans la chaîne de fonctionnement, la chaîne de sûreté. Et donc, va nécessiter que les pilotes soient formés différemment, soient beaucoup plus dans la gestion de crise, dans la capacité, comme le capitaine Sully qui a réussi à faire amerrir cet avion sur l'Hudson. Et donc ça se travaille. Et c'est vraiment ce que Safetyne se propose de faire, et effectivement en lien avec des pilotes qui volent vraiment. On ne veut pas les mettre en réalité virtuelle.
Ce pilote seul, on ne l'a pas dit, mais c'est à quel horizon ?
Tout dépend. On entend parler aujourd'hui de planning de 4-5 ans. En tout cas, on sait que ça va arriver dans des déploiements opérationnels, si ça n'est pas déjà testé en vrai aujourd'hui.
Arthur Léopold Léger, c'est quelque chose qui vous préoccupe aussi ? Avec un avion comme celui que vous êtes en train de concevoir, c'est quelque chose qui sera aussi plus simple ?
Oui. Alors clairement, nous, notre objectif, c'est de rendre l'avion beaucoup plus simple à piloter. Pas pour que la formation soit plus rapide, mais surtout pour qu'elle soit beaucoup plus efficace et que dans un même temps donné, des instructeurs aient le temps de présenter plus de cas d'erreurs, de pannes et analyser tout ça. Et on va dans le même sens que Safetyne. Hein. L'objectif, c'est de rendre les gens meilleurs, plus autonomes et d'atteindre un niveau de sécurité encore plus important.
On va vous laisser repartir au Salon du Bourget. Merci à tous les trois d'être venus aujourd'hui nous parler innovation et aéronautique sur Europe 1.
Il est 13h36.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Restez avec nous, elle est née en 1888, elle est la toute dernière en Europe à travailler le fer forgé, la clouterie Rivière et l'entreprise qui va bien. Merci, à tout de suite.
Europe 1.
La France bouge avec Raphaël Duchemin et ses invités. Tous les jours, Raphaël, vous nous présentez l'entreprise française qui va bien. Et aujourd'hui, Madame a plus de 130 ans.
Eh oui, cette entreprise fait partie, figurez-vous, de nos entreprises du patrimoine vivant et pour cause 1888. Bonjour Luc Kempf.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. C'est vous qui dirigez aujourd'hui la clouterie Rivière. La dernière, hein, je le disais tout à l'heure, à faire des clous en fer forgé en Europe. Alors, qu'est-ce que ça a de particulier, racontez-moi, un clou en fer forgé? Pourquoi c'est si spécial?
Alors, parce que c'est forgé comme pyramidal dans la tige, et donc c'est comme le forgeron qui le faisait il y a 200 ans déjà comme ça.
Donc si vous allez... le savoir-faire est toujours le même depuis la nuit des temps?
Presque, puisqu'on l'a quand même industrialisé, mais à la place de la main, on a une machine qui fait ça depuis 130 ans maintenant, et ça fonctionne toujours. C'est toujours les mêmes machines, et ça reprend les clous qui sortent comme si c'était de la forge.
Alors, la clouterie Rivière, elle porte le nom de Théodore Rivière, qui est le créateur, hein, le fondateur de cette entreprise. Il n'est pas resté longtemps aux commandes, puisqu'il est décédé en 1900, et que c'est son épouse qui a dû reprendre les rênes. Elle est restée à la tête de l'entreprise pendant 35 ans. C'est elle qui a vraiment impulsé le mouvement, qui a fait de cette entreprise une entreprise européenne, mondiale.
Totalement, c'était une femme de poigne, et qui a vraiment construit cette usine-là, commercialement, internationalement, et qui en a fait, l'a fait grandir et arriver jusqu'à 350 personnes dans cette entreprise. Donc c'était vraiment un grand développement à ce moment-là.
Comment est-ce qu'elle fait à l'époque? Parce qu'on est en 1900, ça n'est pas simple hein, pour une femme déjà de s'imposer à la tête d'une entreprise et puis une entreprise de clous.
Je n'en doute pas que c'était pas simple, mais je ne saurais pas vous dire comment elle a fait, certainement avec beaucoup d'énergie, beaucoup
Marie
de volonté.
Rivière, Marie Rivière qui restait jusqu'en 1965, c'est ça?
35.
Ouais. Et ensuite, c'est la société des forges et aciéries de Commercy qui a repris la suite.
Parfaitement. C'est dans ce giron-là qu'elle est restée pendant très longtemps, en faisant sa petite vie, mais sans être vraiment drivée à ce moment-là.
Racontez-moi, comment est-ce que vous arrivez dans l'aventure? Vous n'êtes pas du tout dans ce milieu-là, vous êtes dans la distribution alimentaire, vous êtes passionné, vous avez envie de reprendre une entreprise qui détient un savoir-faire?
C'était l'idée première, oui. Et je suis tombé sur une petite annonce de la Chambre de commerce. Et donc, à travers cette annonce-là, je suis passé dans le bureau du directeur et j'ai commencé à discuter avec lui. Il partait à la retraite, tout à fait. Et il voulait vendre. Et donc, j'ai découvert cette salle des machines, 325 machines datant de l'époque, extraordinaire, un bruit énorme, une odeur incomparable. Et on s'est dit, c'est là où il faut aller. Il y a un vrai savoir-faire, il y a une marque et on peut la développer à l'international. Et c'est ce qu'on a fait depuis 15 ans maintenant.
Comment est-ce que vous y êtes pris? Parce que quand on dit les clous, alors Mercedes vient de nous dire qu'elle est passionnée de clous, elle en achète beaucoup. Comment on fait pour faire la différence? On travaille avec qui? Avec des artisans essentiellement?
On écoute les clients, on écoute ce qu'ils demandent, ce qu'ils veulent. Et souvent le client a les meilleures idées. Et donc on fait ce que le client nous demande. Et au lieu de dire je veux 10 kilos de clous, le client va vous dire je veux 250 pièces parce que c'est ça qu'il me faut pour faire une porte mieux volée, etc. Et donc, à ce moment-là, on lui fait le conditionnement qu'il veut.
Alors, c'est qui les clients?
Mercedes Serra.
C'est qui?
Ah, ben, c'est un peu tout le monde. Ça va du particulier qui achète sur Internet, sur notre site Internet, ou bien c'est l'artisan qui a besoin d'un clou particulier, de l'industriel qui a besoin d'un clou sur mesure, que ce soit pour faire des couteaux, que ce soit pour faire des tonneaux, pour que ce soit des mobiliers. Ensuite, c'est des grossistes dans la distribution de la cordonnerie ou bien de la tapisserie. Et puis, c'est des importateurs dans des pays plus lointains, que ce soit en Afrique du Nord ou bien encore plus loin en Asie.
C'est quoi votre part de marché à l'étranger?
Aujourd'hui, on doit frôler les 75%.
Ah, donc c'est énorme, le savoir-faire français du clou passe les frontières.
Alors, le clou forgé, oui, certainement, parce que là-dessus, on s'est spécialisé.
Oui.
Et aujourd'hui, on est quasiment les seuls au monde, mais certainement les seuls en Europe à pouvoir faire ce produit-là.
Vous avez toujours les mêmes métiers, vous faites de la formation aussi dans votre usine, qui est toujours au même endroit, hein, à Creil.
Exactement.
Vous avez toujours des pointiers qui viennent se former chez vous?
Tout le monde qu'on recrute, on le forme chez nous, sur nos machines, puisqu'on ne l'a jamais vu d'autres machines ailleurs. Donc c'est chez nous que ça se passe.
Vous avez des métiers à clous Rivière qui ont été construits en 1891.
Oui, tout à fait. C'est les premiers qui sont encore là. Et puis donc la plupart des machines, 1895-1925, avec quelques exceptions plus tôt encore, mais la plupart, celles qui tournent aujourd'hui, c'est 1895-1925.
Vous avez parlé d'Internet, ça c'est un des nouveaux débouchés pour vous. Ce que vous avez fait aussi, c'est que vous avez ouvert votre usine
oui.
au tourisme.
Oui.
Et ça aussi, ça vous permet de montrer le savoir-faire et puis de garder aussi un pied dans le, dans l'actualité finalement.
Je pense que c'était important, et c'est encore plus important aujourd'hui, d'ouvrir son entreprise à l'extérieur, parce qu'il se passe tellement de choses extraordinaires dedans, on ne peut pas se l'imaginer. Et lorsque je vois toutes les classes qui viennent visiter l'usine et qui se disent « Waouh, qu'est-ce qu'on fait ici ?» Souvent, c'est la première touche avec l'industrie pour les enfants. Et donc là, ils commencent à vraiment avoir une visu de ce qu'on apprend dans les manuels scolaires. Et là, on l'a devant soi, on le sent, on le vit. Et je pense que c'est une extraordinaire expérience pour eux, mais aussi pour toutes les associations
pour vous,
ou les individuels qui viennent.
Pour partager ce savoir-faire.
Et ça donne une fierté aux ouvriers chez nous. Parce qu'ils voient que les gens sont étonnés, qu'ils reviennent. Au début, lorsqu'on a commencé, ils se sont dit « Oh, un an, deux ans, ça va s'arrêter. » Là, ça fait 10, 12 ans qu'on visite, fait visiter. Il y a toujours du monde, il y a plus de monde d'année en année. Et donc, il y a une vraie fierté qui s'est installée parmi nos ouvriers là-dessus.
Allez voir les machines de cette clouterie, la clouterie Rivière. C'est l'entreprise qui va bien. Merci d'être venu nous en parler.
Merci beaucoup.
Il est 13h47.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Vous avez peut-être un problème à régler, mais vous ne voulez pas que ça se termine avec un avocat. La solution, c'est litige.fr. À tout de suite.
La France bouge sur Europe 1. Tous les jours, juste avant 14h, Raphaël Duchemin, vous nous proposez la solution du jour. Et aujourd'hui, elle va aider pas mal de personnes qui ont des petits soucis du quotidien.
Oui, effectivement, si vous avez un problème à résoudre et pas forcément envie de passer par un avocat, je crois que vous avez la solution, Elisabeth, litige.fr.
Mais oui, parce que ça nous est tous arrivé, hein, une commande jamais arrivée, des frais bancaires, tiens, indûment prélevés, ou encore une chambre d'hôtel qui ne correspond pas à la réservation, eh bien litige.fr peut vous aider. C'est une plateforme qui vous permet d'envoyer gratuitement une lettre de conciliation amiable à une société ou à un particulier, si c'est votre voisin, pour tous les litiges de la vie quotidienne. Une sorte de coup de pression juridique, en quelque sorte, hein, qui permet de désamorcer des tas de conflits. Bonjour Yoni Ohana.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le cofondateur de litige.fr. Pourquoi litige? Comment avez-vous eu cette idée à la fois simple et efficace?
Alors ça part d'un constat, d'abord celui que face à une situation de litige, beaucoup de Français se trouvent un petit peu désemparés, ne savent pas trop comment agir, comment s'y prendre. Il y a d'une part la méconnaissance des recours juridiques eux-mêmes, mais aussi l'appréhension qu'on peut avoir devant la perspective d'un recours juridique. Et notre métier, ça va être de le démystifier. Donc vraiment de permettre...
Finalement, ça peut être simple.
Voilà, de le rendre simple. J'irais pas jusqu'à ludique, mais quand même simplifier les démarches du particulier dans le règlement de son litige. Et aussi de permettre aux consommateurs de se présenter face à l'entreprise à armes égales. Il y a souvent un déséquilibre dans le rapport
oui,
de force.
Entre un service juridique d'une entreprise et un particulier chez
exactement,
lui.
Exactement. Quand on est face à une entreprise, on a ce sentiment parfois d'impuissance face à la capacité de l'entreprise à déployer des moyens juridiques très importants qu'on connaît tous, les cabinets de recouvrement, les lettres d'huissier. Eh bien, tout comme une entreprise, nos clients peuvent, sur litige.fr, envoyer des courriers de relance, des mises en demeure, des lettres d'huissier à l'entreprise mise en cause.
Donc c'est là que vous intervenez, de vraies lettres d'huissier, hein, de vraies mises en demeure. Justement, vous avez mis en place une lettre de mise en cause aussi. C'est quoi exactement?
Tout à fait. Sur litige.fr, notre volonté, c'est de proposer une première expérience positive du service, qui est gratuite, qui permet d'envoyer effectivement une première relance amiable, un courrier assez formel, mais qui rappelle le professionnel à ses obligations.
Avec les articles, les codes de loi, tout ce qui correspond à la demande.
Dans un premier temps, juste la perspective de formaliser la demande, ce que beaucoup de Français n'arrivent pas à faire. Et le cas échéant, si cette solution ne permet pas de régler le litige, il y a d'autres moyens d'action qui s'offrent à nos clients, une mise en demeure, le recours à un huissier de justice pour une mise en demeure d'huissier, et vraiment, alors là, si vraiment on n'arrive pas avec les procédures amiables à régler le conflit, permettre à tous nos clients de saisir le tribunal compétent habilité à trancher ce litige.
Mercedes ?
Ça, c'est un vrai système efficace parce que dans toutes nos analyses de consommateurs, on voit apparaître ces problèmes de difficultés d'oser finalement protester, d'oser dire stop. Et donc, depuis combien de temps existe litige.fr? Racontez-nous. Et comment ça marche? Racontez-nous.
Alors, litige.fr existe depuis janvier 2016. Alors, comment ça marche? On se rend sur litige.fr, on sélectionne tout simplement la catégorie de litige dans laquelle on se trouve. Il peut s'agir de consommation, de logement, de travaux, de télécom, de banque, d'assurance. Bref, tout ce qui fait nos dépenses quotidiennes, tout ce qui fait notre quotidien. Et la plateforme va vous poser quelques questions très simple. Généralement, ça vous prendra pas plus de 5 minutes de constituer votre dossier et d'avoir accès à toute cette série de recours simplifiés, à l'amiable principalement, et le cas échéant au judiciaire.
Quels sont les litiges qu'on rencontre le plus ?
C'est un triptyque, c'est la consommation, le logement et les conflits du travail, donc pour les grosses catégories. Après, il y a des catégories plus saisonnières, hein, comme les voyages, les litiges qu'on peut rencontrer pendant les vacances. Donc vous parliez de prestations non conformes hôtelières ou dans une location saisonnière, c'est très fréquent. Le transport aérien aussi en est un. Finalement, c'est tout ce qu'on peut rencontrer dans son quotidien, dont l'enjeu dépasse rarement les 10 000 euros. Et il faut savoir que pour ces litiges-là, le recours à l'avocat n'est absolument pas obligatoire.
Et c'est quelque chose qui est gratuit pour nous ? Ce sera à la charge de la personne qu'on met en cause, justement ? Ou comment
Alors,
ça se passe ?
Dans le cadre de la mise en cause, vous n'avez rien à payer. C'est une première relance amiable qu'on offre à tous nos utilisateurs. Ça règle en général 15 à 20% des affaires, ce qui est déjà satisfaisant, hein, sans débourser un euro. Après, si effectivement il y a nécessité d'un recours plus formel et plus musclé, on va pouvoir même aller jusqu'à solliciter un huissier de justice pour qu'il écrive une mise en demeure à votre adversaire et qu'il le rappelle à ses obligations.
Comment gagnez-vous votre argent ?
Ben c'est des forfaits. La sollicitation d'un huissier, par exemple, on est autour d'une centaine d'euros. Mais on est généralement sur des recours qui sont très abordables et qui sont en rapport à l'enjeu financier de ces litiges. Hein. On est sur un enjeu moyen de 1200 euros à peu près.
Ça s'appelle litige.fr, c'est la solution d'aujourd'hui. Merci à Mercedes Serra qui était notre coach. On se retrouve demain. Elisabeth,
demain,
nous parlerons protection du soleil.
Et merci. Dans un instant, sur Europe 1, c'est Ondelat raconte avec Christophe Ondelat qui aujourd'hui va vous dresser le portrait d'une danseuse de French Cancan, gloire du Moulin Rouge et modèle de Toulouse-Lautrec. Ondelat raconte la goulue dans un instant sur Europe 1.